et demander aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter tout reproche ultérieur.
L'événement pédophilie.
Si en 2007-2008, Barbara avait rempli son devoir de dénoncer auprès de la justice ces faits d'agression sexuelle, il n'y aurait pas 4 victimes dans ce dossier Préna, mais il y en aurait plusieurs dizaines. Ce ne serait pas seulement des faits d'agression sexuelle, mais ce serait aussi des cas de viol.
La parole libérée passe par la voie médiatique. L'association qui porte ce nom est très connue maintenant. On sait qu'il est reproché à l'archevêque de Lyon d'avoir conservé des ministères exposés à 2 prêtres dont il n'ignorait aucunement le passé. Le cardinal argue que les faits se sont enfoncés dans le temps et qu'ils sont prescrits. Mais une bonne partie de l'opinion ne l'entend plus ainsi. Pour beaucoup, la pédophilie est moralement imprescriptible. Ces normes entre donc en conflit avec celle de l'Église sur ce point comme sur bien d'autres. Toutes les institutions dont la jeunesse et l'enfance sont la terre de mission se retrouvent d'ailleurs dans une situation exposée. Dès 1997, Ségolène Royal avait obtenu de l'Éducation nationale qu'elle communique de suite à la justice tout fait répréhensible. Le non-signalement était même susceptible de sanctions juridiques au risque de négliger la présomption d'innocence et de jeter à la vindicte populaire toutes les personnes soupçonnées. Ceux qui ont vécu dans les années 1970 ne s'attendaient pas à voir la pédophilie ainsi présentée comme le mal absolu. Comment d'ailleurs le mot est-il apparu? Pourquoi s'est-il imposé? C'est assez récemment. Les contemporains des années 1970 s'attendaient plutôt à une extension perpétuelle de la libération sexuelle. En réalité, les droits des adultes se sont en effet largement accrus, et l'accès au corps des autres aussi, notamment par la pornographie, mais ceci derrière un mur de protection étanche qui protège strictement les moins de 15 ans. Comme quoi les libertés nouvelles peuvent avoir besoin d'interdits pour se constituer.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Pierre Verdraget. Bonjour Pierre Verdraget.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous adorez les situations de controverse, vos sujets de curiosité sont multiples. Les historiens ont pour principe d'essayer de se mettre dans la tête des contemporains qui ne savent pas ce qu'il va advenir. Et vous, vous êtes un sociologue qui voit les choses telles qu'elles sont.
Écoutez, la posture que je défends, la posture sociologique que je défends, est une posture dans laquelle on essaye de se remettre dans la peau des acteurs. Alors c'est une démarche historienne parce qu'on se plonge dans le passé, on essaie de comprendre ce qui se passe, mais on essaie de ne pas profiter du recul du temps, on essaie de se plonger dans les controverses, hein. C'est ma ligne de conduite depuis que je fais de la sociologie, pour essayer de retracer les lignes de cohérence des propos des acteurs et de voir comment, lorsqu'il y a une controverse, cette controverse se déroule, quels sont les arguments en présence, quelles sont leurs structures, leurs cohérences, et comment aussi cette controverse évolue dans le temps, parce que les controverses, bien souvent, n'ont qu'une vie temporaire, et la description sociologique est intéressante quand on retrace toutes les étapes depuis la naissance jusqu'à la mort de cette controverse.
Comment la pédophilie est devenue scandaleuse? C'est le sous-titre d'un livre que vous avez publié chez Armand Collin sous le titre « L'enfant interdit ». Une précision encore, certaines statistiques montrent que la pédophilie hétérosexuelle est majoritaire, qu'elle se rapproche très souvent de l'inceste, mais dans les années que nous allons observer dans la première partie de l'émission, les années d'avant 1980, l'enjeu politique et symbolique de l'homosexualité est tel qu'on peut considérer que c'est par cette question qu'il faut suivre le chemin d'interprétation. Je vous propose un extrait de film. Tous les extraits de film que nous allons vous proposer, vous ne les connaissez pas, moi non plus d'ailleurs. C'est un film de Gérard Blin. C'est un film fort intéressant, Un enfant dans la foule. Gérard Blin raconte l'histoire d'un adolescent, c'est la sienne, qui, en difficulté, un peu flottant, passe des mains d'une femme aux mains de plusieurs hommes. Ici, c'est celle d'un professeur, Gilles, qui va se retenir à temps.
Dis-moi, Paul, tu as eu beaucoup d'amis avant moi?
Non.
Qui c'était le premier?
Un copain. Il habitait à côté de chez moi. Il m'aimait bien, il m'avait donné sa bicyclette.
Tu ne le vois plus?
Non. Je pense souvent à lui.
Et le type qui t'a accosté dans le métro?
Laurent?
Oui, Laurent.
Je le vois plus.
Pourquoi?
Il ne m'aimait pas.
Et moi, tu crois que je t'aime bien?
Toi, c'est pas pareil. T'es marié, t'as des enfants. Pourquoi on se reverra plus?
Je retourne à Lyon. Je suis nommé dans un nouveau lycée.
Et tu reviendras jamais à Paris?
Je ne pense pas.
Ah bon?
C'est pas vrai ce que je viens de te dire. Je t'ai menti, je ne pars pas. Mais on ne peut plus continuer à se voir. On se connaît depuis peu de temps. Il vaut mieux en rester là. Plus tard, ce serait trop difficile. Je ne veux pas prendre cette responsabilité. Je ne peux pas oublier ton âge et le mien.
Nous sommes autant des amitiés particulières, Roger Perfit, de la ville dont le prince est un enfant, Henri de Monterland. Ici, Gilles renonce à prolonger la relation au nom de la différence d'âge. Où est la limite? Vous faites un tableau des variations de l'âge de la majorité sexuelle dans l'histoire. Moi, je ne savais pas du tout que, sous Napoléon III, la majorité sexuelle était à 13 ans seulement. Si les partisans d'une extension de la libération sexuelle dans les années qu'on va observer, les années d'après 68, l'avaient su, ils auraient tiré argument de ça.
Oui, d'ailleurs, la question de la variabilité temporelle de l'âge de consentement, de l'âge de la majorité sexuelle, a été un des arguments sollicités par les acteurs de l'époque pour faire valoir l'idée que la pédophilie pouvait être défendable. Ça faisait partie de l'arsenal argumentatif, à la fois de faire référence donc au passé, aux variations passées, à l'histoire, et à la fois de faire référence aux variations spatiales, à la géographie, à l'anthropologie.
C'est-à-dire que dans les sociétés primitives, on cherchait des justifications.
C'est ça, c'est-à-dire que les sciences en général, toutes les disciplines des sciences humaines, étaient mises à contribution afin de défendre l'idée que toutes ces choses-là étaient variables selon les cultures, toutes ces choses-là étaient variables dans le temps, et par conséquent, si toutes ces choses-là étaient variables, eh bien, elles étaient contingentes, et si elles étaient contingentes, on pouvait les changer. Donc le raisonnement était toujours le même. Il prenait appui sur des comportements qu'on pourrait qualifier de constructionnistes. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des constructions. Et à partir du moment où on a considéré que c'était des constructions, eh bien, on peut commencer à les déconstruire et à faire émerger potentiellement quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, évidemment, c'est quelque chose qui est conforme à ce qu'on souhaite.
Évidemment, vous regardez avec circonspection la psychanalyse, me semble-t-il, Pierre Verdrager, mais on faisait aussi beaucoup appel à Freud. L'enfant consentant, c'est un enfant désirant.
Oui, parmi tous ces arguments, la psychanalyse était mobilisée fréquemment aussi. Le point fondamental qui était mobilisé par les gens de l'époque, par les défenseurs de la pédophilie, c'était évidemment l'idée de la sexualité infantile émergente, potentiellement débridée. C'était quelque chose qui était constamment sollicité. Et alors, il y avait aussi l'idée donc de cette thématique de la pulsion infantile et de la sexualité infantile, mais aussi le fonctionnement de cette argumentation prenait appui sur la légitimité de la psychanalyse, qui était à cette époque-là autrement plus importante, semble-t-il, que maintenant. Il y a Ian Hacking qui parle de la psychanalyse en termes de débandade pour la période récente.
Donc, je précise que vous êtes né, hein.
En 1970.
Ouais, ah bah oui.
J'ai pas vécu tout ça.
Alors dans cette haute antiquité, Pierre Verdrager, très difficile finalement à imaginer aujourd'hui, l'enfant est considéré par certains comme symétrique de l'adulte. Et l'enfant, il a les mêmes ennemis que l'adulte. La famille bourgeoise, la société bourgeoise, le mouvement de libération sexuelle qui peut s'étendre aux enfants, c'est un front parmi d'autres, tout le mouvement social.
Alors, on a du mal à comprendre ces questions familiales dans la mesure où la famille est considérée maintenant comme quelque chose de tout à fait confortable, de réconfortant et qui apporte quelque chose d'uniment positif. À cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, la famille faisait l'objet d'une critique radicale. C'était vraiment famille, je vous vois, en permanence. Et alors, l'argumentation pédophile dans ce contexte-là, c'était de considérer le pédophile comme une espèce de sortie de secours, qui permettait donc à l'enfant de pouvoir avoir une possibilité de sortie de la prison parentale. Et parfois, on a un certain pédophile qui accusait les parents qui déposaient des plaintes ou qui manifestaient leur mécontentement de vénalité. Si les parents déposaient plainte, c'est parce qu'ils voulaient avoir des dédommagements, etc. Donc la famille, dans ce cadre-là, était considérée comme quelque chose d'affuir absolument.
Conséquence tragique d'un dépôt de plainte. Je voudrais qu'on évoque, là, on quitte maintenant les milieux des estrades parisiennes, du mouvement homosexuel, des élites journalistiques, de Libération ou du grand journal homosexuel Guépier, pour aller vers le grand public. Le grand public s'est passionné pour une affaire, l'affaire Gabrielle Russier, une professeure d'une trentaine d'années qui file le plus parfait amour avec un de ses jeunes élèves qui a moins de 18 ans et nettement moins de 18 ans jusqu'à ce que la famille, qui est de gauche d'ailleurs, porte plainte. Gabrielle Russier est condamnée, se suicide. Le président Georges Pompidou lui-même est interrogé sur le sujet. Il répond, énigmatique par quelques vers d'Éluard, « Comprenne qui voudra, moi, mon remords sera la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. » Le film qui a été tiré de cette affaire par André Cayatte est projeté au dossier de l'écran en 1978 et on n'entend pas sans un certain étonnement le compte-rendu des réactions des téléspectateurs tel que le fait depuis le bureau de SVP Guy Darbois.
Les principales cibles contre lesquelles se porte l'indignation des téléspectateurs sont d'une part les parents et d'autre part la justice. Voici pour les parents. Cette histoire a toujours existé, seulement les parents ne veulent pas voir grandir leurs enfants. Une éducation trop sévère ne peut apporter que des ennuis. Il ne faut pas contrarier les amours de jeunesse. L'épanouissement de l'individu passe par une certaine liberté sexuelle. Quand abrogera-t-on ces lois ridicules? Ou bien on demande, un père peut-il aussi facilement faire interner un enfant? Est-il normal de laisser des enfants, tels ce jeune homme, subir la loi de ses parents? Quel recours peut-il avoir? Et on demande même si le Code civil a prévu quelque chose contre l'autorité abusive des parents. On demande aussi jusqu'où s'étend l'autorité des parents sur un mineur.
Bon, alors il ne faut pas tirer trop de conséquences de ce sondage express après le film émouvant de Cayatte. Vous dites sans doute la pédophilie, le mot n'est pas encore cristallisé, est-elle globalement désapprouvée par la majorité? Mais l'opinion est dans une certaine incertitude.
C'est difficile, évidemment, d'évaluer ça de façon précise. Ce qu'on peut constater, c'est que des arguments qui circulaient à l'époque de façon générale, dans les grands organes de presse, par exemple, ou dans des revues gouvernementales, où on pouvait suggérer l'acquisition d'ouvrages de Tony Duvert, toutes ces choses-là sont comme une autre planète, pour reprendre l'expression de Paul Venn au sujet de l'Antiquité romaine. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, étant donné qu'on est passé dans un autre monde où les caractéristiques par rapport à toutes ces questions-là sont complètement transformées.
Tout de même, dans la foulée de ce mouvement d'opinion qu'on sent, la majorité sexuelle a été légèrement transformée par Valéry Giscard d'Estaing dès 1974. Majorité sexuelle homosexuelle à 18 ans. Sauf que il y a encore pénalisation pour les relations homosexuelles entre majeurs et mineurs de 15 à 18 ans. François Mitterrand supprime cet alinéa. Et, à vous lire, L'enfant interdit, chez Colin, on voit que l'idée chemine, encore au début des années 80, d'une majorité sexuelle à 13 ans, voire peut-être plus bas encore, un jour.
Alors ça, c'est une idée vraiment très intéressante. C'est l'idée que cette majorité sexuelle, cet âge de majorité sexuelle, ce seuil, puisqu'il était susceptible de mouvement, pouvait encore se modifier. Et donc, la loi du 4 août 82, qui alignait majorité sexuelle, homosexuelle et hétérosexuelle, a été considérée évidemment comme un grand pas par tout le monde, mais a été considérée par les défenseurs de la pédophilie comme quelque chose d'annonciateur d'autre chose, comme une étape, comme quelque chose qui annonçait le fait que les seuils allaient pouvoir continuer de descendre et la courbe allait pouvoir dessiner, allait pouvoir être perpétuellement en déclin.
On a essayé avec vous, Pierre Verdranger, de se mettre dans la tête de beaucoup des acteurs des années 1970. Il y avait le film de Louis Malle sur l'inceste à l'époque. Il y avait aussi Mort à Venise, adapté de Thomas Mann. Le film de Luchino Visconti, où on voit un compositeur vieillissant absorbé dans une atmosphère de fin des temps à Venise par la beauté extraordinaire d'un adolescent qui avait peut-être, Tadzio, il avait peut-être 14, 15 ans. Et tout ça sur une symphonie de Mahler, la symphonie numéro 5.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Verdrager, qui a publié un livre dont le sous-titre est « Comment la pédophilie est-elle devenue, à partir des années 80, scandaleuse ?» Le titre de votre livre chez Colin, c'est « L'enfant interdit », on pourrait tout aussi bien dire « L'événement pédophilie », c'est notre thème aujourd'hui. Le mouvement pédophile, entre guillemets, il est faible, c'est une ébauche d'esquisse, de mouvement. Il a peu de ressources en lui-même, ses principaux leaders disparaissent assez tôt. Et vous expliquez que la défense de la pédophilie va perdre peu à peu tous ses alliés. Les féministes n'ont jamais été des alliés.
Non, c'est vrai que là, ça a été un maillon faible de la structure de défense de la pédophilie parce que, d'une manière générale, les femmes n'avaient pas du tout le même rapport à la libération. Pour les hommes, la libération, c'était la libération de la sexualité qui comptait. Pour les femmes, c'était la libération de la parole par rapport à l'oppression. Donc c'était une manière d'envisager la libération de façon complètement différente.
Et puis, on ne peut pas lutter contre le viol et le harcèlement sexuel et avoir les positions que vous suggérez.
Voilà, et puis peut-être un autre aspect par rapport aux féministes et aux femmes plus généralement, c'était le fait qu'évidemment, la division traditionnelle du travail assigne aux femmes le fait de s'occuper des enfants. Et la plus grande proximité des enfants rendait naturellement les femmes plus sensibles aux problématiques de la souffrance de ces enfants, que ces enfants étaient susceptibles de ressentir.
Avec le drame du sida et les conséquences pratiques qu'il faut en tirer, le mouvement homosexuel va avoir d'autres priorités et va se disjoindre totalement.
Alors oui, alors ça c'est une évolution tout à fait saisissante. On a quand même dans les années 70-80, voire un peu après, par exemple quand on regarde le journal Guépier, presque jusqu'au bout ce journal.
C'était le grand organe de ce qu'on n'appelait pas encore la communauté.
Voilà, donc qui était le grand journal gay de l'époque et presque jusqu'au bout pour pédophiles. Donc ça va s'arrêter. Il y a une controverse sur le moment de cette disjonction. Moi, je dis que c'est au cours des années 90. Bon, peu importe, c'est pas tellement la question. Ce qui compte, c'est qu'il va y avoir une disjonction des causes et pour plusieurs raisons, parce que avec l'apparition de l'épidémie de sida, il va y avoir une réoccupation de l'agenda politique par les questions de normalisation, par les questions de Pax, ce qui allait devenir le Pax, et par la question du mariage qu'on a vécu récemment. C'est tout un processus qui s'est mis en place à partir de ça. Donc la question majeure du monde homosexuel, c'était beaucoup plus la normalisation, la conjugalité, la reconnaissance.
Et pour que ces libertés nouvelles puissent être honorablement revendiquées, politiquement obtenues, il faut installer un mur parfaitement étanche. Les associations consacrées aux enfants se multiplient, vous en notez près de 200 maintenant, et elles contribuent à leur manière intelligente, violente, cela dépend des moments et des cas, à une nouvelle définition des droits de l'enfant, l'enfant ne peut plus être considéré comme le symétrique de l'adulte, comme il l'avait parfois été dans les années 70.
Alors tout à fait, il y avait eu dans les années 70 une tentative de symétrisation de l'enfant. On disait l'enfant est une personne. La symétrisation inverse pour rapprocher l'enfant de l'adulte, c'était de dire que tous les adultes sont de grands enfants intérieurement. Et cette symétrisation-là, qui visait justement à rendre légitime la pédophilie, va devenir peu à peu totalement impossible. Et bien sûr, l'enfant sera considéré comme une personne dotée de droits, mais ce sera aussi comme une, considéré comme une personne particulière, spécifique, avec des caractéristiques différentes.
C'est là que se constitue le mot pédophilie, dont l'usage peut être repéré, c'est encore un peu empirique, mais dans le catalogue des titres de la BNF, c'est...
Oui, dans les années 80, thèse de médecine dans les années 60, et les premiers titres avec ce mot-là dans les années 80.
Et c'est une maladie repérée dans le catalogue de l'OMS. Voici un film qui a été diffusé sur une grande chaîne de télévision, encore un film grand public de Mei Wen, Police, un gamin de peut-être 10 ans, excellent élève, très proche d'un professeur de gymnastique.
Je pensais pas lui faire du mal.
Et vous comprenez maintenant que vous lui avez fait du mal?
Oui.
Vous pensiez pas quand vous le faisiez, maintenant vous pensez quoi?
Mais on avait une relation qui ressemblait à tel amour.
Je vais vous demander de signer le procès verbal, vous signez là, en bas de chaque page.
Il va s'en sortir.
Il va être aidé, oui. Il va être pris en charge.
Est-ce que... il est en prison à cause de moi?
Non. Il va en prison à cause de ce qu'il a fait. Et c'est à toi qu'il l'a fait, mais toi tu y es pour rien, parce qu'il est malade, ton professeur. En fait, il a une maladie qui s'appelle la pédophilie. Il est pédophile, on dit. Tu connais ce mot? Eh bien, c'est une maladie que certains adultes ont et qui fait qu'ils se permettent de faire à des enfants des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et nous, on intervient pour les punir.
Mais pourquoi il va en prison, mais pas que dans un hôpital?
Parce que quand quelqu'un enfreint la loi, comme il l'a fait, on le met en prison. C'est une punition.
Je suis un peu triste.
Pourquoi t'es triste?
Parce que... je l'aimais bien et il était gentil avec moi.
Donc le film de Mei Wen, grand et petits écrans et grand succès. La pédophilie comme maladie. Mal absolu, dit le secrétaire d'État Xavier Emmanuelli. Crime, c'est dans le code pénal?
Alors il n'y a pas le terme de code pénal dans le code pénal, il y a simplement la définition de ce que peuvent être le viol, les agressions sexuelles, avec cette limite de 15 ans. Donc, quand les personnes sont mises en cause devant la justice, c'est par rapport à ces textes-là qui définissent très clairement un seuil au-dessus duquel il ne convient pas de descendre.
D'aucuns voudraient aller beaucoup plus loin et parler et parlent d'imprescriptibilité. Au nom de ceci qui s'est peu à peu établi dans l'opinion, les institutions dont la jeunesse est la terre de mission sont toutes en difficulté. L'éducation nationale, Ségolène Royal 1997, les responsables d'établissements et les enseignants ont un devoir de signalement et fermer les yeux, c'est une sanction. Les responsables de lieux d'accueil de jeunes, de colonies de vacances et alors les églises. Et notamment l'église catholique, parce qu'elle a tendance à enfermer la sexualité sous un couvercle et évidemment de temps en temps ça lui revient à la figure. Un téléfilm d'Edwin Bailey, qui reproduit tout à fait le récit médiatique tel qu'il est complètement rodé depuis quelques années. Une victime que la présence constante de la question réveille dans ses souvenirs et qui s'en va voir les responsables de l'Église.
Si quelqu'un venait vous voir en vous disant qu'il a la preuve qu'un prêtre abuse de jeunes enfants dont il a la charge, vous feriez quoi?
Je demanderais à en savoir plus.
Pourveur, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Denis Pourveur.
Oui, ce pauvre garçon qui s'est fait renverser par une voiture.
Denis a été violé par le père Vincent pendant plusieurs mois.
Qu'est-ce que vous racontez?
Apparemment, je suis pas le premier à vous en parler. N'est-ce pas mon père? Monsieur Pourveur est venu vous trouver déjà.
Il n'y avait aucune preuve. Et son fils était mort. Mais c'est si facile d'accuser quelqu'un. Monseigneur Perrac a parlé au père Vincent, qui lui a juré que c'était de la calomnie. Ce pauvre Denis souffrait de troubles du comportement. D'après les témoignages, il était un peu mythomane.
Et si une autre victime du père Vincent venait vous trouver? Vous feriez quoi? Étouffer l'affaire à nouveau?
Nous n'avons pas étouffé l'affaire.
Feriez quoi?
Écoutez, si vous réussissez à convaincre la victime dont vous parlez de venir témoigner, j'organiserai une rencontre avec l'évêque. En attendant, je dois malheureusement prendre congé de vous.
En ce moment, il y a peut-être un autre gosse abusé par le père Vincent. Un gosse qui n'ose rien dire, parce qu'il a honte.
Un gosse qui finira peut-être par se jeter sous une voiture comme Denis. Et vous, vous serez responsable.
Que votre témoin se dépêche de venir. Et j'agirai, je vous le promets. Au revoir, monsieur.
Alors vous notez, Pierre Verdraget, dans votre livre, que la moyenne d'âge du clergé est relativement âgée. Et donc le clergé a des souvenirs. Si je peux en invoquer un personnel, années 70, un presbytère en Dordogne, zone rurale. On entre dans le presbytère et il n'y a dans le salon, dans la cuisine, dans tous les lieux de réception, que des gravures d'enfants et d'adolescents courvêtus. Et ça posait, semble-t-il, pas de problème absolument insurmontable aux paroissiens ruraux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le changement de mentalité des fidèles et de ceux qui sont hostiles à l'Église peut être facilement envisagé par l'Église?
Écoutez, le système qui, enfin, le problème que rencontre l'Église actuelle est lié évidemment à l'émergence de la pédophilie comme phénomène inacceptable par le monde social. C'est un phénomène qui a évidemment frappé l'Église catholique aux quatre coins du monde. D'abord aux États-Unis de façon extrêmement forte. Des dizaines de diocèses ont fait faillite. Il y a eu des millions de dollars qui ont été payés d'indemnités. Il y a eu des innombrables procès qui ont mis en crise de façon très forte l'Église américaine.
Parce que les fidèles qui continuent de payer le denier du culte voudraient bien qu'ils soient consacrés à autre chose, c'est sûr.
Exactement. Donc, aux États-Unis, on estime que 5% des prêtres environ, des 100 000 prêtres actifs aux USA depuis 1950, ont été impliqués dans ces affaires. Donc on est là dans des quantités extrêmement importantes.
Et dans un phénomène d'assez longue durée tout de même.
Tout à fait.
Parce que la crise se prolonge depuis un quart de siècle, même si elle n'avait pas touché massivement jusqu'ici l'Église de France. Oui, mais vous expliquez qu'entre les institutions, il n'y a pas que l'Église, le mouvement antipédophile dominant maintenant dans l'opinion, il y a comme un conflit de normes. Et dans le cas du catholicisme, du christianisme, il y a un conflit de normes essentiel, parce que s'il y a bien un article de foi dans le christianisme, c'est la rédemption. Un vieux salaud peut devenir un pardonné rajeuni.
Oui, alors la question du pardon dans l'Église catholique est absolument centrale, bien sûr, mais c'est ce qui lui pose problème, dans la mesure où maintenant on considère que tout ce qui a trait à la pédophilie est absolument impardonnable, est considéré comme le pire des crimes et la pire des abominations. Donc, cadrer le pardon à l'intérieur d'un tel contexte devient proprement impossible ou inaudible.
Et puis, l'Église, elle a aussi, comme l'Éducation nationale, à toute proportion gardé ses structures de régulation, l'inspection générale, etc. Elle a son droit canonique, elle a dans chaque diocèse ses officialités. C'est très difficile pour une institution de tout devoir remettre de son histoire traditionnelle dans ce domaine à la justice humaine.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a une concurrence en matière de qui doit régenter quoi. Bon, maintenant, c'est vrai que l'Église catholique, puisqu'on parle d'elle, et c'est elle qui est principalement en cause, a associé
aujourd'hui
associé à la pédophilie depuis maintenant de nombreuses années, hein, j'en parlais. Sur le site web du Vatican, il y a une icône qui est consacrée aux abus sexuels sur les enfants. Donc c'est quelque chose qui dure depuis des années. Et c'est, je crois, la seule religion qui a une telle association, disons maintenant, identitaire par rapport à la question pédophile.
J'aime bien l'usage du mot icône pour le sujet que vous décrivez. Alors, vous ne faites pas de prévision. Que va-t-il advenir? Il y a une tendance qui contient la lutte antipédophile dans ses justes limites. Il y en a une autre qui peut, au nom de l'imprescriptibilité absolue de ce crime, nous conduire aussi au rétablissement de la peine de mort.
Oui, alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi la castration chimique, la castration physique, l'enfermement définitif. Donc il y a toute une série de mesures qui sont revendiquées par un certain nombre de gens, de composantes politiques, par rapport à la question pédophile.
Que va-t-il advenir? Vous n'êtes pas là pour répondre aux historiens non plus.
Non, c'est sûr.
Je rappelle le titre de votre livre. Merci à vous, Pierre Verdraget. L'enfant interdit, c'est aux éditions Armand Collin. Demain, nous sommes en direct au Salon du Livre, vendredi aussi, comme vous le serez, vendredi seulement, hélas, Mathieu Vidard.
Oui, c'est vrai, vendredi au Salon du Livre, et puis en attendant aujourd'hui, on va parler de toutes les intelligences humaines et artificielles dans la tête au carré.
Alors j'ai peut-être le temps de donner le programme du Salon du Livre pour la marge de l'histoire. Il y aurait beaucoup d'autres émissions à citer en ce qui concerne notre rendez-vous de jeudi 13h. Emmanuel Pierra, je le cite à dessein parce que le sexe et la loi, c'est aussi une de ses spécialités.